d'ici encore quelques mois, l'association Extinction Rebellion faisait encore l'unanimité, aussi bien parmi les militants contre le changement climatique que chez de nombreux responsables politiques rassurés par ces méthodes de non-violence. Mais depuis quelques jours, ce sont ces méthodes non-violentes, justement, qui sont contestées par d'autres franges du mouvement social. La non-violence est-elle paradoxalement une violence? C'est pas seulement une question de philo, mais c'est une interrogation nécessaire du mouvement social. Question que nous allons poser à nos trois invités d'aujourd'hui, Laura.
Lola, vous avez officiellement rejoint Extinction Rebellion en septembre. Vous n'êtes pas porte-parole, puisqu'il n'y a pas de porte-parole officielle de la branche française qui est très, très horizontale. Et dans la vie, vous êtes intermittente du spectacle. Oui. Taha Bouafs.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la Bas Si J'y Suis, le site de Daniel Mermet. Vous êtes aussi militant antiraciste. Vous avez posté des tweets critiques vis-à-vis des militants Extinction Rebellion.
Pas des militants, de la stratégie.
Non, de la stratégie.
Nuance. On aura tout le temps de développer.
Manuel Cervera-Marsal, enfin, vous êtes sociologue à l'Université Aix-Marseille et vous êtes spécialiste de l'histoire de la désobéissance civile. Vous avez notamment publié en 2016 « Les nouveaux désobéissants, citoyens ou hors la loi ».
Alors, on va engager le débat sur toutes ces questions de désobéissance civile et de non-violence, mais je pense qu'il faut auparavant rappeler pourquoi on en parle aujourd'hui. Et si on en parle aujourd'hui, c'est que le mouvement a mené des actions relativement visibles ces derniers jours.
C'est ça. Pendant toute la semaine dernière, les militants écologistes d'Extinction Rebellion ont lancé des actions dans une soixantaine de villes dans le monde entier pour dénoncer l'inaction des gouvernants face au changement climatique. Alors, Extinction Rebellion, je rappelle rapidement, c'est ce jeune mouvement écologiste de désobéissance civile.
Avant la fin de l'émission,
on va y arriver. Est né au Royaume-Uni en 2018 pour alerter sur la 6e extinction de masse qui est en cours et qui a désormais essaimé dans une vingtaine de pays. La branche française s'est constituée il y a environ un an. Alors en France, les rebelles n'ont pas attendu cette semaine de mobilisation internationale pour occuper dès le samedi 5 octobre le centre commercial Italie 2 à Paris. Lola, je suis tombée sur une photo de vous dans un reportage des jours sur cette occupation. L'occupation a duré 18 heures quand même. Alors là, pour le coup, il n'y avait pas que des militants de XR. Il y avait le Gilet jaune, Jérôme Rodriguez, il y avait Corinne Morel-Darrieux, pour parler des People, hein, ancienne militante de la France insoumise. Il y avait la star de la collapsologie, Pablo Servigne, il y avait Assa Traoré. Voilà pour Italie 2. Et puis, donc, lundi commence.
Ah, à propos de star.
Et puis lundi 7 octobre.
Il y avait des gilets jaunes aussi.
Les gilets jaunes, bien sûr.
Bien sûr.
Ouais, j'ai dit Jérôme Rodriguez, mais c'est vrai que. Et donc le lundi commence la semaine internationale de la rébellion. Et ça a commencé donc à Paris par l'occupation et le blocage de la place du Châtelet dans le centre de Paris. Et là, ce qui était étonnant d'emblée, c'est le fait que la police a laissé faire. Les militants ont pu tranquillement monter leur campement, leur tente. Leur cuisine, leur point presse. Ils ont organisé toutes sortes d'ateliers, d'activités. Les plus courageux ont passé la nuit. Nous, on est allés mercredi pour tourner un reportage. Et c'est vrai qu'il y avait comme un petit air de festival, disaient certains. Ce jour-là, un petit groupe a décidé d'aller bloquer le McDo de la rue de Rivoli, à quelques mètres de là. Lola en faisait partie. C'est d'ailleurs là que je vous ai rencontré. Vous vous interpelliez avec votre mégaphone les passants pour leur expliquer votre démarche. Alors, je passe rapidement sur les autres moments forts de la semaine. Vendredi, vous avez décidé de lever le campement de la place du Châtelet. Globalement, tout s'est bien passé, trop bien peut-être, on y reviendra. A priori, il n'y a pas eu d'arrestation, alors que dans d'autres villes, il y a eu des centaines d'arrestations, notamment à Bruxelles, plus de 400 arrestations très musclées, à Amsterdam, à New York, et surtout à Londres, où il y a eu plus de 1000 arrestations dans la semaine. Des arrestations qui ont fourni des images choc pour les médias, surtout quand c'est un homme brocoli, par exemple, qui se fait arrêter. En comparaison, à Paris, c'était le calme plat, rien à voir avec la tournure qu'avaient pris les événements du 28 juin lors du blocage pacifiste du pont de Sully, à Paris où le CRS avait été filmé en train de gazer à bout portant des manifestants assis. Même les responsables de la majorité avaient été choqués par les images qui avaient beaucoup tourné.
C'était un rassemblement interdit par la préfecture, un sitting, une occupation d'un pont de Paris par un groupe d'activistes écologistes. Pour les déloger, les CRS utilisent des sprays lacrymogènes directement sur le visage des manifestants, visiblement non violents. La polémique monte, indignation des élus de gauche.
Gaz zéro lacrymo, les jeunes qui se battent pour le climat et notre avenir est indigne.
Le seul gaz que le gouvernement connaît, c'est la lacrymo contre les jeunes qui demandent des actions contre le réchauffement climatique.
Un malaise qui gagne les rangs de la majorité.
Moi, quand je les ai vus, j'ai été assez choquée, comme tout le monde, parce qu'on envoie du gaz lacrymogène quand même très près des yeux des gens. Donc je suis plutôt satisfaite qu'il y ait eu une enquête qui a été demandée par le ministre pour savoir un petit peu où ça en est, ce qui s'est passé.
Même incompréhension pour la porte-parole du gouvernement.
Ça ne justifie pas le gazage en plein visage et avec une telle proximité.
Alors, du coup, on est obligé de constater la disproportion entre les répercussions médiatiques des deux actions. Je veux dire, le pont Sully, les images ont fait le tour du monde. Voilà un sujet aux 20h de France 2. L'occupation d'Italie 2, moi j'ai regardé les chaînes info tout le week-end, il n'y a pas eu un mot. Et le Châtelet, la médiatisation a été quand même beaucoup plus limitée que ce qui s'était passé au pont Sully. Donc, pour vous, par exemple, l'occupation de la place du Châtelet, c'est une réussite, c'est un échec ?
Je pense que cette semaine a été une réussite. Enfin, moi, je suis assez fière de nous dans l'ensemble. On a réussi à conscientiser énormément de gens sur l'urgence climatique.
Énormément de gens, les gens qui passaient dans la rue ?
Oui. Et le déni et la passivité et l'indifférence vis-à-vis de ce sujet est tellement grande que... Non, je pense que sur ce coup-là, on a réussi.
Quand vous dites conscientiser, c'est-à-dire que vous avez des discussions avec des gens dans la rue et vous avez senti que chez eux, vous arriviez à provoquer...
On expliquait la raison de... Enfin, pourquoi on occupait la place, ce qu'on faisait exactement. Et voilà, on n'est pas des scientifiques. Hein. Il y a des rapports très précis qui expliquent ce qu'on risque dans les prochaines décennies. Mais on expliquait le sens de notre action, de notre démarche. Aux gens qui étaient dans la... C'est le but, en fait.
Et le but principal, c'est ça. C'est pas de conscientiser à travers une médiatisation forte.
Si, aussi, forcément. Enfin, sans les médias, on n'est rien. Je veux dire, on a le temps de conscientiser 10 personnes dans la journée, alors que si on arrive à maîtriser un peu mieux les médias et qu'on a une visibilité, on peut en parler beaucoup. Enfin,
mais c'est bien pour ça que je vous pose, en fait, la question de la réussite ou de l'échec. Oui. C'est-à-dire que, paradoxalement, les images de gazage... ont eu un impact 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois plus important qu'une occupation pacifique que la police laisse faire.
Et donc,
est-ce que ça veut dire que d'une certaine façon, s'agissant de la médiatisation, est-ce que c'est pas un échec ?
Non, je pense pas. Non, je crois pas.
Vous voyez bien ce que je veux dire. Vous faites gazer, tout le monde parle de votre action. Mm-hmm. Vous ne faites pas gazer.
Mais je crois qu'on a parlé de notre action, même si les médias français essayent de taire un peu tout ça. Je crois qu'on a parlé à travers le monde d'Extinction Rebellion. Et en fait, le mouvement Extinction Rebellion, nous, on veut parler de l'urgence climatique, en fait, avant de parler de ce mouvement. Je crois qu'on en a. Enfin, cette semaine a permis qu'on en parle beaucoup plus dans le monde, en fait.
Même question, peut-être de manière plus générale. Est-ce que, d'une manière générale, parmi les mouvements de désobéissance civile ou les mouvements de non-violents, est-ce que la répression est souhaitée dans la mesure où elle peut attirer l'attention sur le mouvement ?
Je pense que c'est trop fort de dire que la répression est souhaitée. Elle n'est pas souhaitée. Ce qui est souhaité quand on a des activistes climatiques, c'est que des mesures d'ampleur soient prises pour protéger le climat. Ce qui est souhaité... dans le mouvement des droits civiques dans les années 60, 50, c'est pas d'être réprimé. Ce qu'ils souhaitent, c'est l'égalité entre les blancs et les noirs, la fin de la ségrégation. Après, évidemment, une fois qu'on a dit ça, oui, on peut reconnaître, et je veux dire, c'est dans tous les textes des fondateurs, des théoriciens de la désobéissance civile, qu'il y a un usage, il y a une instrumentalisation de la répression de la part des militants. Quand Martin Luther King... s'avance le premier comme ça lors d'une action pour rentrer dans une bibliothèque ségrégée en sachant pertinemment qu'il va se faire arrêter, qu'il va ensuite être mis en prison à un moment où le mouvement des droits civiques, son mouvement est en train de décroître, où il y a un peu moins de monde, où le moral est moins bon. Il sait qu'en se faisant arrêter et en allant en prison, ça va susciter l'émotion dans tout le pays et même l'émotion à l'international et ça va revigorer les forces militantes. Et donc là, oui, il y a un jeu là-dessus, tout comme aujourd'hui. Personne, je pense, ne souhaite se prendre des coups de matraque ou du gaz poivré dans la figure parce que ça fait extrêmement mal, c'est extrêmement désagréable. Mais on sait, on constate bien que voilà, ça permet un écho médiatique plus important.
Je ne voulais pas dire souhaiter comme une fin, je voulais dire souhaiter comme un moyen.
Oui, bien sûr, mais il y a un rapport c'est très ambigu en fait ce rapport à la répression, parce que trop de répression, disons un peu de répression, effectivement ça fait parler de votre cause, comme lors de l'occupation du pont de Sully en juin, d'autant plus que c'est de la part d'une police au service d'un gouvernement qui se prétend le champion de la terre contre Trump et Bolsonaro, donc ça permet vraiment de montrer les contradictions du pouvoir. Mais c'est quand il y a un peu de répression, quand il y en a trop, on peut prendre le cas des gilets jaunes, quand il y en a trop, de facto au bout d'un moment ça en vient à tuer un mouvement. Donc voilà, c'est ça qui est assez...
Et puis il y a des gens après qui ne veulent plus aller manifester, quoi. Et nous, en fait, on essaie de montrer, de proposer une autre méthode afin que les plus faibles ou des gens peut-être moins courageux aussi puissent venir et s'investir et s'engager. Alors, qu'il y ait une place pour tout le monde. Voilà, c'est là où il y a de l'inclusivité.
On va venir là-dessus sur la non-violence comme moyen d'encourager des gens qui éventuellement auraient peur d'arriver dans des manifestations violentes, de venir tout de même. Oui.
Alors moi justement, c'est vraiment moi cette facette-là qui me gêne. Le fait de dire notre position, notre stratégie dans le conflit social. Dans un lieu de désobéissance, c'est d'être non violent, c'est d'être, et on l'a vu, je l'ai vu, j'étais à Italie 2, j'étais à Place du Châtelet, c'est de demander aux gens d'être passifs face à la répression, c'est de demander aux gens de ne pas répondre, de ne pas répondre physiquement, de ne pas répondre, de ne pas essayer de se défendre, de ne pas être masqué. On a demandé à des gens de se démasquer, on a demandé à des gens, on leur a dit, notamment à Italie 2, si vous êtes ici, vous acceptez le fait que voilà, c'est une démarche transparente. L'objectif, effectivement, il est assez clair, c'est d'avoir des images comme sur le pont de Sully, c'est de dire, voilà, regardez, ils sont violents avec nous, nous sommes les désobéissants, non violents, etc., pour faire des images choc. Sauf que pour moi, c'est extrêmement prétentieux. Quand on voit que dans le mouvement des Gilets jaunes, on a notamment le journaliste David Dufresne qui a recensé des centaines et des centaines et des centaines de vidéos de gens qui se font tabasser, qui se font mutiler, qui sont blessés, handicapés à vie. Ça n'a pas changé grand-chose à la donne. Quand on pense que finalement, quand c'est nous, justement, les désobéissants du climat... Et en fait, ça classe les mauvais et les bons manifestants. Cette position de facto, elle permet au gouvernement de dire, voilà, regardez, il y a les gentils qui se laissent taper dessus et les méchants qui répondent. Sauf que, pardon Daniel, mais il y a des gens qui n'ont pas d'autre choix que de répondre parce qu'on n'est pas tous égaux.
Ce jeu-là, en fait, du coup, de créer de cette scission, quoi.
Une occupation d'extinction rébellion.
On peut laisser Lola répondre.
Non, mais je dis que du coup, en fait, il y a des mouvements d'extrême gauche, quoi. Enfin, on dit d'extrême gauche, mais de gauche, quoi, qui rentrent pile dans ce jeu-là, en fait.
Dans quel jeu ?
Bah, dans le jeu de nous dénigrer, de nous mépriser, de nous tirer une balle dans le pied, quoi. J'avais vraiment l'impression.
Alors, attendez. Plutôt qu'une discussion générale, je voudrais revenir sur un aspect particulier de ce que Tahabouaf vient de dire. Il a été demandé à Italie 2 ou à Châtelet, par exemple, à des gens de se démasquer. Oui.
En fait, on assume nos actions à Extinction Rébellion. Enfin, ça fait partie de notre stratégie. On assume qui on est. Enfin, on assume. Enfin, voilà, on assume nos actions.
D'accord.
Donc,
mais est-ce que vous avez demandé alors est-ce que
À partir du moment en fait où c'est une action qui est organisée par Extinction Rébellion, il faut qu'on suive. On se mette d'accord ensemble sur des règles. Et donc on suit le consensus qui a été décidé en amont.
D'accord.
Après, si c'était
Parce que vous vous démasquiez vous-même, on comprend, mais que vous veniez, que vous demandiez à des militants qui viennent d'autres horizons de se démasquer aussi, c'est pas tout à fait la même chose. Je dis pas que c'est pas légitime, mais c'est pas tout à fait.
Mais c'est une action qui a été organisée par Extinction Rébellion en l'occurrence. Et du coup, on a proposé à des collectifs. Comme Justice pour Adama ou les Gilets jaunes, etc., qu'on soutient, avec lesquels on est en accord, on leur a proposé de se joindre à nous. Mais l'organisation de cette action précisément était... s'il y a de la casse, si nous, en fait, alors qu'on se dit être un mouvement non violent, et la non-violence n'a rien de passif, en fait, elle est... Je pense qu'il faut avoir une... un mental de guerrier, en fait, pour être non-violent. Ça, pour moi, ça m'est complètement antinaturel. Si on m'envoie du gaz lacrymogène dans la figure ou qu'on essaye de me frapper, je... Enfin voilà, mon instinct premier, c'est de répondre et de répondre par la violence. Donc je ne suis pas du tout dans un état passif, en fait, et c'est vraiment une discipline que je m'impose à moi-même.
Juste au préalable, j'aimerais juste qu'on pose quelque chose dans le débat, c'est ni du dénigrement, ni de la jalousie mitonne, comme ça a pu être dire, faut accepter qu'il y ait des critiques sur la stratégie, c'est des critiques qui sont politiques. Il n'y a rien, c'est pas du dénigrement.
Est-ce que la règle du jeu de l'interdiction des masques avait été posée avant l'occupation de l'Italie 2 ?
Pardon, c'est l'occupation d'Italie 2 comme l'occupation de la place du Châtelet sont des occupations illégales. On parle de lieux autogérés. Quand on arrive sur un lieu et qu'on nous dit « cette action c'est comme ça », c'est soit comme ça, soit tu vas faire ton action plus tard. Moi j'ai l'impression d'entendre Sarkozy dans le texte. C'est soit c'est mon action, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est exactement ça. Pardon de le dire, mais vous dites voilà que c'est incluant, qu'on veut ramener plus de gens, mais c'est nier le fait qu'on n'est pas tous égaux face à la répression. Pardon. C'est qu'on n'est pas tous égaux face à la répression, qu'on n'est pas tous égaux face à la police. Quand vous demandez à des gens, par exemple, qui sont racisés, qui viennent de banlieue, vous parlez du comité Adama, vous demandez à des gens qui sont racisés de se démasquer ou de ne pas de rester passif quand il y a la police ou d'adopter cette stratégie-là, vous les mettez en danger. En réalité, vous les mettez en danger. Nous ne sommes pas tous égaux face à la police. Et quand vous dites, voilà, on réagit de façon non-violente face à la police, c'est dénigrer aussi le travailleur, qui n'a pas d'autre choix que de tirer la chemise de son patron. C'est le gamin qui va tirer un pavé sur un commissariat. Non, mais pardon, mais je finis juste.
J'ai des questions à te poser sur ce que tu as.
Oui, non, mais c'est une mise en danger des gens. C'est ne pas accepter que tout le monde on n'est pas tous égaux face à la répression. Moi, quand je me fais arrêter, c'est pas comme si toi, tu te faisais arrêter.
Sais,
c'est absolument pas la même chose.
Consciente.
Mais pardon, mais quand vous demandez aux gens, quand cette injonction, moi, je dis pas que la non-violence est mauvaise.
Ces débats ont toujours existé. T'as à boire. Pourquoi, question naïve, hein, quand moi, je me fais arrêter, c'est pas comme quand vous faites arrêter. C'est quoi la différence si Lola, ici présente, se fait arrêter après avoir...
Elle est blanche.
Après avoir balancé un pavé dans une vitrine. Vous pensez vraiment que son sort sera différent du vôtre ?
Mais elle est blanche.
Non,
c'est pas pareil. Je vais vous raconter.
Elle est blanche. Si elle se fait arrêter après avoir balancé un pavé dans une vitrine, est-ce que son sort sera différent
du
vôtre ?
Bien sûr.
En quoi ?
Bien sûr.
En quoi ?
Dans le traitement judiciaire, policier, quand on est une personne blanche, eh bien, effectivement, on bénéficie de plus de faveurs que quand on est une personne racisée.
Oui.
C'est pas probable, c'est
non,
sûr.
Non, mais sûrement. Enfin, oui, d'accord. En fait, on le nie pas à Extinction Rébellion. Mais donc, tu considères que les gens qui sont noirs ou d'origine maghrébine ne peuvent participer à aucun mouvement de contestation ?
Si, mais par contre, on n'a pas à leur... Des personnes blanches n'ont pas à leur dire parce que Extinction Rébellion est un mouvement blanc jusqu'à preuve du contraire.
On ne vous le dit pas, on ne vous donne pas d'ordre de manière générale.
Non, à se démasquer,
De fait.
Juste sur quand c'est Extinction Rébellion qui organise une action, nous, on a des règles qu'on se fixe.
Donc on ne vient pas. Vous nous demandez de soit l'accepter, soit de ne pas venir. C'est non mon action.
Ou alors de créer l'action qui vous correspond.
Ou barrez-vous chez vous, faites votre pays chez vous. C'est exactement la même chose.
Non, pas du tout. Attends, moi.
C'est exactement la même chose.
Lola. Bon, alors, pour laisser Lola réfléchir, que vous n'avez pas l'habitude...
Non, mais oui, c'est vrai, je n'ai pas l'habitude des médias, c'est la première fois que je suis...
Ni des médias, ni d'un débat un peu rugueux et frontal comme ça. Manuel Severin-Marzal, ce dialogue auquel on assiste, là, que moi je trouve tout à fait intéressant, qui est tout à fait...
C'est dur aussi, mais c'est tout à fait nécessaire.
C'est la première fois qu'on assiste à un tel débat dans un mouvement de désobéissance civile. Il y a des précédents ?
Non, mais il y a des précédents sur ce que vous disiez, sur le pouvoir, le gouvernement qui cherche à créer ses bons manifestants et ses méchants manifestants. Ça, c'est vieux comme le monde. Enfin, voilà, c'est divisé pour mieux régner. À nouveau, quand on regarde dans les années 50 aux États-Unis, puis ensuite le gouvernement Kennedy, ils ont construit le gouvernement, ce récit du méchant Malcolm X avec ces jeunes des ghettos qui font des émeutes. Et ça, c'est absolument inacceptable. Et de l'autre côté, les bons manifestants du mouvement mouvement des droits civiques, ils font des marches et des sit-ins pacifiques, ils ont construit cette différence. Ça, c'est indéniable. C'est quelque chose de... C'est quasiment un invariant dans l'histoire des mouvements sociaux. Donc voilà, je pense que...
Non, mais là, si vous voulez, ce qu'on vient d'entendre là, ce n'est pas le gouvernement qui construit quoi que ce soit. C'est deux franges du mouvement social, deux composantes du mouvement social.
Mais il y a un traitement... Non, mais il y a un traitement qui n'est pas du tout le même. Le traitement des militants des quartiers et le traitement des militants blancs qui participent à des actions de désobéissance civile, le traitement policier et ensuite le traitement judiciaire, c'est absolument pas le même. Moi, j'ai fait donc une thèse de sociologie sur la désobéissance civile. J'ai passé entre 2012 et 2014 deux ans à toutes les semaines mener des actions comme ça, parce que contrairement à ce qu'on dit, c'est pas totalement inédit. C'est pas Extinction Rebellion qui a inventé en France ce mode d'action. Enfin, ça fait déjà 10, 15, 20 ans que ça existe dans plein de collectifs. Moi, j'ai passé deux ans à toutes les semaines bloquer une centrale nucléaire, interrompre un match de foot pour dénoncer la politique d'Israël, etc., etc. En une soixantaine d'actions, je crois qu'on a été emmené deux fois seulement au poste. Il y a eu zéro procès. Les deux fois où on a été emmené au poste, les policiers étaient ni sympas ni méchants. Mais enfin, voilà, j'ai pu discuter avec certains, même blaguer. Et on sait bien que c'est parce que les membres de ces mouvements-là sont blancs, mais en plus, sont relativement jeunes, plutôt diplômés, même si sûrement précaires économiquement. Mais voilà, on sait bien que tout ça joue. Après, moi, ce qui me...
Excusez-moi, est-ce que ça veut dire qu'on peut considérer ces mouvements comme inoffensifs?
Non, pas comme inoffensif, parce que c'est absolument pas inoffensif. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui ont bougé en France au niveau du débat public et au niveau de la législation sur les OGM, sur les pesticides. Enfin, voilà, il y a eu quand même des avancées timides, largement insuffisantes, mais il y a eu des avancées parce que des mouvements blancs, plutôt diplômés, mais de désobéissance civile, agissent depuis une vingtaine d'années sur ces sujets. Donc, c'est pas vrai que c'est inoffensif. José Bové, il a passé combien de temps en prison? Il est allé en prison aussi, José Bové. C'est pas inoffensif ce qu'ils ont fait, mais simplement, effectivement, voilà, c'est pas les mêmes secteurs de la population qui font ça. Mais juste, il y a un point, parce que moi, en tant que sociologue, historien, je peux apporter un peu de profondeur historique au sujet, c'est que c'est intéressant de voir comment aujourd'hui, dans le cas très spécifique de la France actuelle, la désobéissance civile est plutôt portée par donc ce profil qu'on a décrit. Et en fait, c'est un mode d'action, la désobéissance civile, qui, quand on revient à sa racine historique, en fait, c'est expérimenté en Afrique du Sud à la fin du 19e siècle par des gens qui sont des Indiens qui ont migré en Afrique du Sud pour faire... c'est les rebuts de la société, c'est des travailleurs agricoles qui sont discriminés socialement et racialement, enfin, qui sont... Il y a vraiment, à l'époque, ils n'ont pas le droit, par exemple, de porter leur turban. Enfin, ça fait d'ailleurs un peu écho à certaines choses qui se passent aujourd'hui, mais c'est vraiment... Ces gens-là sont battus, sont discriminés dans la loi, sont... Voilà. Et en fait, c'est vraiment la strate la plus inférieure et la plus violentée de la société. Et c'est eux, en fait, qui vont utiliser la non-violence comme mode d'action. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais, parfois, on n'a pas le choix, en fait. On n'a que la violence à disposition, ce qui est tout à fait vrai. Mais eux-mêmes, en fait, à l'époque, n'avaient pas le choix. Ils n'avaient que la non-violence à disposition. Ils n'avaient même pas de quoi se nourrir et se loger. Ils n'avaient évidemment pas de quoi s'acheter des armes. Donc, en fait, ils menaient des actions de sit-in non-violentes.
Mais alors, juste sur l'exemple concret qu'on prenait, c'est-à-dire cette occupation d'Italie 2 où les gens d'Extinction Rebellion disent à ceux qui viennent les rejoindre « Non, ici, pas de masque », c'est une demande qui vous paraît légitime?
En fait, ça dépend de comment ça a été décidé. Je veux dire, il faudrait savoir très concrètement, en amont de l'occupation, qui a décidé de cette occupation dans les réunions préparatoires, qui était là, et si les personnes qui étaient là et qui ont appelé à l'action avaient, de manière, au vote ou au consensus, décidé qu'il n'y avait pas de... qu'il fallait être à visage découvert, et l'ont fait savoir, bon, dans ce cas-là, c'est pas une décision tyrannique imposée à tout le monde, c'est une décision plutôt démocratique.
Concrètement, ça fait partie des principes d'Extinction Rebellion. Donc c'est clair.
Mais cette action-là, est-ce qu'elle était que Extinction Rebellion, justement?
Ça, c'est des principes qui sont au niveau mondial, quoi. Enfin, après, on...
Attends, quelle est la question? J'ai pas entendu la question.
Tu veux dire que ça peut se bouger ou pas? Ouais. Pour l'instant, non, mais on est en réflexion. Enfin, je veux dire,
la convergence des luttes, c'est pas de l'incantation. Allez, on converge. C'est comment est-ce qu'on arrive à trouver des...
Alors, je vais prendre un autre exemple. À Italie 2, il y a des gens qui ont inscrit des tags sur sur des boutiques et sur des rideaux de fer. Laura.
Ouais, ça, c'était l'autre gros contentieux, cette question des tags effacés. Un militant XR a notamment été pris à partie par d'autres militants, d'autres organisations, mais il ne s'est pas démonté. On écoute comment il a justifié son geste.
Yeah. Tu mets fuck le ministre. Si tu veux, tu t'adresses à une personne. Mais fuck la police, elle décide rien. C'est le ministre qui décide, tu vois. C'est le ministre qui décide. Donc, voilà.
nettoyé, explique-moi.
Bah, en fait, il y avait marqué fuck le 17 et on n'est pas d'accord parce que ça alimente la violence. Et foncièrement parlant, on n'est pas contre la police, on est contre les gens qui prennent des mauvaises décisions pour le climat. Ça n'a rien à voir.
On n'est pas contre la police, mais contre les gens qui prennent des mauvaises décisions. C'est absurde ?
Je vais vous raconter une histoire. Le premier jour de l'action d'Extinction Rébellion à Place du Châtelet, le premier jour de l'occupation, je ne suis pas venu en journée parce que j'ai dû me rendre à Villiers-le-Bel, en banlieue parisienne, pour le rassemblement en hommage à Ibrahima Ba, un jeune mort en moto dont on soupçonne fortement l'implication de la police. Et vous savez, quand je suis revenu le soir, donc je me suis dit il faut que j'aille faire un tour sur cette occupation, voir ce qu'il en est, voir comment ça a évolué depuis Italie 2. Et à cette occupation-là, je tombe sur un militant qui est en train de d'effacer des tags en hommage à des personnes qui sont mortes, qui sont tuées par la police.
Des personnes tuées par la police.
Voilà.
Il y avait des tags en hommage à ces personnes.
Voilà. Donc j'entame une discussion avec lui et je lui dis que c'est ignoble, que quand on prétend protéger le vivant, il faut au moins respecter les morts. Et on entame un débat sur cette question. Et il me dit, mais nous, notre problème, c'est pas la police. Nous, notre problème, il est plus grand, c'est la sauvegarde de la vie, du climat, etc. Et à ce moment-là, ce militant non-violent, il m'a envoyé une voyance vraiment ultra forte. Moi, j'ai arrêté la discussion, je suis parti. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Nous, notre problème, c'est pas la police, notre problème, c'est la sauvegarde de la vie, c'est un problème plus grand, c'est le climat. Ça veut dire que la sauvegarde de sa vie et celle de ses semblables est plus importante que la nôtre. Pourquoi ? Parce que la question de la police, c'est une question de vie ou de mort dans les quartiers populaires. Et dire...
Le climat aussi.
Le climat, bien sûr.
Je veux dire, quand la planète grillera, les quartiers populaires grilleront comme les autres. Et peut-être même, et certainement même, avant les autres.
Bien sûr.
Avant les autres.
Mais bien sûr. Sauf que, quand il me dit, moi, mon problème, c'est pas la police. Quand aujourd'hui, la police, c'est synonyme de vie ou de mort dans les quartiers populaires, c'est une violence. C'est une violence. Et pour rejoindre du coup le truc de Villiers-le-Bel, quand je dis qu'on n'est pas tous égaux face à la police, en 2007, il y a deux jeunes qui sont morts, Laramie et Mouchine, à Villiers-le-Bel. Il y a eu des grandes révoltes urbaines. Et vous savez, les peines de prison qui ont été prononcées, les peines de prison qui ont été prononcées contre ces jeunes, c'est des peines à deux chiffres.
Très concrètement, effacer des tags.
Par rapport à ce que tu cites, je suis d'accord, moi ça me choque. Je suis pas d'accord avec le fait que...
Mais c'est le consensus d'action du coup.
Non, je veux dire, on pense tous différemment dans le mouvement, on est...
Par exemple, sur cette question...
Le fait de d'effacer le tag couteau en céramique, qui a été... qui a dû être tagué...
À Italie 2. Couteau en céramique, qui était une espèce de référence, effectivement, au meurtrier de la préfecture de
police. Ça va être associé à Extinction Rébellion, puisque c'est nous qui organisons l'action. Ça n'a rien à voir avec nos valeurs. On cautionne absolument pas. Je trouve ça normal, en fait, qu'on l'efface, je l'aurais effacé. Il y avait aussi marqué un moment violent avec du scotch. Je l'ai effacé, ça n'a rien à voir avec notre démarche, avec nos valeurs, avec les valeurs d'Extinction Rébellion. Et nous avions organisé l'action, encore une fois. Après, pour ce que tu dis, ça me choque complètement. Je sais qu'il y a un tag qui a été effacé, Castaner, Maë Bornier. Parce que dans les principes d'Extinction Rébellion, il y a ce truc de « on ne doit pas faire du shaming », c'est-à-dire on ne doit pas stigmatiser une personne. Pour moi, c'est du dogmatisme. Il n'y a pas de réflexion en fait, derrière ça. Là, à cet endroit, je trouve ça ridicule d'effacer un tag comme ça. C'est mon avis personnel. Il y en a d'autres qui ne seraient pas d'accord. Moi, je suis beaucoup plus souple par rapport à plein de choses.
Mais alors, du coup, chacun fait ce qu'il veut ou il y a des lignes de conduite globales qui sont...
On essaye de se fixer des lignes de conduite. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas tout contrôler.
Par exemple, vous disiez sur les masques, là, c'est un principe, il n'y a pas de masque. Mais par exemple, sur les tags...
Sur nos actions, mais après, encore une fois, les gilets jaunes font ce qu'ils veulent. Mais on n'a rien dit, en fait. Moi, je me défends, en fait. J'essaie de nous défendre.
Appeler à la convergence quand on veut appliquer ses propres règles.
On va venir à la convergence.
Écoute, le jour, ce sera pas le... Enfin,
Manuel.
Non, mais je comprends. Enfin,
Attendez, on va faire la convergence.
Non, mais ouais, pour revenir un tout petit peu sur, à nouveau, ce que Gandhi et Martin Luther King disaient de la non-violence, parce qu'ils n'avaient vraiment pas une vision dogmatique ou absolutiste de la non-violence. Ils disaient, vraiment, on trouve des dizaines de phrases allant dans ce sens-là, dans leurs écrits respectifs, que jamais, jamais, ils ne mettront sur le même plan la violence des oppresseurs et la violence des opprimés. Pour eux, il y a une lutte, c'est la lutte, bon, en l'occurrence, des Indiens contre les Britanniques colons, des Noirs contre la ségrégation raciale. Il y a une lutte. Et cette lutte, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ensuite, à l'intérieur de ceux qui luttent, il peut y avoir des divergences. Mais ces divergences, elles sont secondaires par rapport au combat contre l'oppression. Ces divergences, elles sont d'ordre tactique. Et Gandhi lui-même disait parfois la non-violence dans certaines circonstances. Par exemple, quand on se prend une charge policière énorme et non anticipée, on n'a pas le temps de s'organiser pour être non-violent. Donc la seule façon de résister à ça, ça va être effectivement de se protéger, mais même y compris physiquement, avec de la légitime défense, de l'autodéfense, qui peut impliquer une violence physique vis-à-vis des forces de l'ordre. Et ça, Gandhi disait, dans certains cas, la violence, elle est nécessaire. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est bien, ça ne veut pas dire qu'on prône la violence, on aurait préféré se défendre d'une autre façon. Mais voilà, il ne faut absolument pas la mettre sur le même plan. Et j'insiste là-dessus parce que ce genre d'idée, il me semble, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais ça permet peut-être aussi une meilleure entente entre partisans de la violence et de la non-violence, parce que c'est ça tout l'enjeu. Dans l'histoire, les mouvements sociaux qui ont été, les plus efficaces, tout mouvement est traversé par ce type de débat. Franchement, tous les mouvements d'ampleur sont traversés par ce débat. Mais ceux qui sont le plus efficaces, c'est ceux qui arrivent à trouver, non pas un consensus, parce que ça n'a jamais existé, j'y crois pas, vous n'arriverez pas à vous convaincre parfaitement, mais au moins à trouver une entente intelligente entre les différentes stratégies.
Je suis pas partisan de la violence, simplement. Et par ailleurs, Extinction Rebellion font bien ce qu'ils veulent. Moi, perso, c'est pas une démarche dans laquelle je m'inscris, mais ce que je veux dire, c'est que quand on appelle à la convergence, il faut s'en donner les moyens. Quand je te dis, nous ne sommes pas tous égaux face à la police et à la répression, tu me dis, je suis d'accord. Très bien, on est d'accord. Mais pourquoi demander à des gens de se démasquer quand je te dis qu'on n'est pas tous égaux? C'est ça la question que je pose. Le débat sur la violence et la non-violence. Tu finis juste ma phrase. Le débat sur la violence et la non-violence, il a toujours existé dans le mouvement ouvrier.
Mais la non-violence, c'est aussi parfois de laisser les autres parler.
Ouais, mais bon, je finis juste ma phrase pour que ça ait un sens.
Donc tu considères qu'on a une différence de traitement si on est en garde à vue tous les deux?
Je considère pas.
Oui, ok, je partage ton avis. Tu considères que tu prends plus de risques à participer à une action d'extinction rébellion à visage découvert que d'être en manifestation et puis de t'énerver contre les CRS et de balancer un pavé. Tu trouves que c'est plus risqué de faire une action d'extinction rébellion à visage découvert?
Je ne compare pas les deux, je dis juste que...
Non, mais moi, je veux savoir qu'est-ce que tu proposes, en fait. En gros, de toute façon, il y a une différence de traitement, il y a une injustice, en fait.
Quelle est la question exacte?
Tu me dis en gros finalement, en fait, vous prenez plus de risques, en fait. Mais vous prenez plus de risques tout court, c'est pas vous prenez plus de risques avec Extinction Rebellion.
Donc l'injonction, à me démasquer, me gêne.
Ok,
c'est une mise en danger.
Mais qu'est-ce que tu vas faire alors pour t'indigner, pour te révolter? Qu'est-ce que tu proposes?
Ceci dit, c'est une mise en danger aussi de te masquer, parce que c'est quelque chose qui est interdit depuis quelques années. Et du coup, quand tu passes
devant le juge, c'est encore
plus cher. Je veux dire, tu risques de prendre encore plus cher si tu te fais prendre masqué que pas masqué pour la même action.
Non, mais c'est l'injonction qui gêne, en fait.
Oui, mais
c'est alors, non, juste sur, effectivement, ce que vous disiez sur Gandhi, il y a aussi une banderole déployée par Extinction Rebellion qui a été extrêmement critiquée. Je ne sais pas si on peut la voir. C'est une... je ne sais pas où... Voilà, la voilà. Elle est là, elle apparaît. Contre toutes les violences, unie contre toutes les violences, et là, des militants d'autres composantes du mouvement social ont dit qu'est-ce que c'est que cette manière de renvoyer dos à dos la violence policière et éventuellement les violences contre les policiers.
Non, mais ça, moi, je suis désolé, c'est pour ça que je parlais de Gandhi, et je suis désolé si j'ai l'air de donner des leçons de gandhisme.
Ah, vous êtes là pour ça,
mais ça, c'est du Gandhi très, très mal digéré. Enfin, jamais, il n'y a pas la moindre phrase qui ressemble à ça chez Gandhi. Uni contre toutes les violences, effectivement, ça peut suggérer, c'est pas forcément ce que les gens qui ont écrit sur cette banderole avaient en tête, je suis pas dans leur tête, je sais même pas qui c'est, mais ça peut tout à fait laisser entendre qu'il y aurait une forme d'équivalence entre la violence du policier et la violence de celui qui se défend parce qu'il est agressé par un policier. Donc au mieux c'est maladroit et au pire c'est, en fait je pense que c'est le pire qu'il emporte, c'est extrêmement méprisant et condescendant d'un point de vue de classe et de race.
Vous êtes d'accord Lola ?
Je considère aussi que c'est maladroit, ouais.
C'est juste maladroit.
Parce que c'est pas ce qu'on veut dire, en fait. On veut pas dire que la violence policière équivaut à la violence d'un manifestant ou d'un jeune des cités défavorisées. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on est tous générateurs de violence. Ici, sur ce plateau, je sais pas, on a tous peut-être un objet ou un vêtement qui a été fabriqué par un enfant à l'autre bout du monde, qui a été exploité. On a peut-être ici tous mangé de la viande issue des élevages intensifs. Mon ami intermittent du spectacle, qui a accepté pour un cachet de faire la pub Coca-Cola ou McDonald's, génère aussi de la violence. Ce qu'on veut dire, c'est que nous, on critique un système, et moi, c'est ça qui m'a séduit dans Extinction Rebellion, c'est qu'il y a une pensée globale, en fait. On ne culpabilise pas, on ne critique pas individuellement les gens. On est tous paradoxal dans cette société. Même si on essaye d'être au maximum cohérent, on ne peut pas y arriver complètement, parce que cette société nous empêche de l'être. Et par rapport à la police, moi, je suis choquée des violences policières, et je pense que c'est le... Enfin voilà, c'est juste que nous, on considère que... Enfin, on pense... Enfin, je peux pas dire « on », je vais dire « je ». Je pense qu'on aura gagné le jour où les flics décideront d'enlever leur matraque. Et je pense pas que c'est en leur crachant à la figure. Et même si... Enfin, vraiment, j'ai envie de le faire parfois. Enfin, je devrais peut-être pas le dire, mais... Enfin, je veux dire, il y a des moments où je suis en colère parce que je suis prise dans la violence. Et j'ai envie de répondre comme ça, mais... je pense pas que c'est comme ça que je vais les convaincre. Et moi, par exemple, en manifestation, j'avais une pancarte à un moment où je la montrais devant les CRS et il y avait marqué dessus « Police de France, on vous instrumentalise contre votre propre peuple ». Et j'avais des flics qui me faisaient... Ouais, discrètement, tu vois. Vous avez raison. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas du tout d'accord, qui m'envoyaient chier complètement ou qui ne répondaient pas, ou c'était des murs, tu vois. Mais je considère que dans la police, je pense... que dans la police, il y a des individus profondément dangereux, peut-être sadiques, d'extrême droite, très certainement. Mais il y a aussi beaucoup d'individus qui réfléchissent, qui se posent des questions, qui sont en dissonance cognitive, qui comprennent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui comprennent très bien qu'ils sont utilisés. Et moi, je cherche à convaincre ces gens-là de nous rejoindre et de désobéir. Si j'ai rejoint Extinction Rebellion, c'est pour ça, quoi. Je veux juste qu'on s'invite tous ensemble à s'élever par le haut, à désobéir, à s'indigner, à s'engager. Parce que, et là, en fait, on est en train de parler de mouvements, de stratégies et tout, alors qu'en fait, pendant ce temps-là, on n'a plus que 2 ans pour agir pour le climat. Et en fait, à force d'attaquer le messager, en fait, on n'entend plus du tout le message, tout est brouillé. Et en fait, utilisons la méthode qui... Moi, je dis aux gens qui nous critiquent, mais utilisez la méthode qui vous convient. Mais réveillez-vous, en fait.
En même temps, pardonnez-moi... Il me semble que la discussion qu'on a là n'est pas tout à fait inutile. Il n'est pas tout à fait inutile de
réfléchir.
Il n'est pas tout à fait inutile de réfléchir ensemble, même si je suis parfaitement conscient de l'urgence.
C'est pour ça que j'ai accepté de venir.
Une petite heure de réflexion commune ne fait pas de mal.
Oui,
alors, si je peux me permettre. Alors, sur la police, vous dites, voilà, c'est des individus, on essaye de les gagner. C'est ce qui se voit, en effet, dans vos manifs.
Et juste, je voudrais rajouter un dernier truc. C'est que j'ai vu dans la lettre qui était adressée aux militants d'Extinction Rebellion, il y avait marqué... pas un mot sur les violences policières. Nous, si on invite le collectif Justice pour Adama, c'est pour qui ? C'est pour dire... C'est à eux de donner ce mot. Il y a, sur ton t-shirt, il y a marqué « Je suis pas raciste, j'ai un ami blanc ». En fait, nous, on veut pas prendre la parole à la place des gens qui sont défavorisés. On veut leur laisser la parole. Justement, en fait, je vais arrêter de dire « on, je ». Oui, c'est compliqué.
Mais on comprend bien ce que vous voulez dire.
D'accord.
Alors, juste pour étayer ce que vous dites sur la manière dont vous souhaitez traiter la police.
Oui, donc cette bienveillance-là, cette stratégie-là, vous a été aussi, bien sûr, reprochée. Devant l'Assemblée nationale, samedi dernier, alors que les CRS s'employaient à dégager une chaîne d'activistes, les militants ont tenté, comme vous l'expliquez, de raisonner, voire d'attendrir les CRS.
CRS, doucement, on fait ça pour vos enfants. Pourriez assumer ce slogan ?
Oui. Oui, enfin, je ne suis pas fondamentalement contre de dire à des gens qu'on fait ça pour l'avenir de leurs enfants, mais je suis très mal à l'aise avec le fait de penser, et c'est pour moi la stratégie d'Extinction Rebellion, que la police n'est pas un ennemi de la lutte, parce que de fait, c'en est un. C'est les policiers qui viennent casser les grèves en venant frapper les gens sur les piquets de grève, c'est les policiers qui viennent casser les manifestations, c'est les policiers qui viennent taper les gens des quartiers populaires. De considérer que la police en tant que corps, ça peut être...
Il est illusoire d'imaginer ou d'essayer de susciter une rébellion chez eux ?
Non. Pour moi, le rôle, peut-être chez l'individu, mais ce serait vain. Social de la police aujourd'hui dans un État autoritaire, dans un État capitaliste, c'est d'être le bras armé du capitalisme.
Mais
c'est d'être...
J'ai
parlé 30 secondes, je finis juste de parler. Bien sûr que la question de... Donc la phrase que je voulais passer tout à l'heure, c'est que le débat sur la violence et la non-violence, il a toujours existé au sein du mouvement ouvrier, il a toujours existé au sein des mouvements pour les droits civiques. Mais ce qui est problématique, c'est de dire à un moment donné, c'est la condition sine qua non au fait que vous rejoigniez nos actions. Pour moi, c'est problématique.
On a bien compris, c'était tout le début de l'émission. La question maintenant, c'est sur la police.
Comment
on considère la police, comment on analyse la police ? Est-ce qu'on analyse la police comme finalement une collection d'êtres humains qui tous, peuvent être...
Pendant la commune de Paris, je crois qu'il y a des soldats qui ont... Enfin, je ne suis pas historienne, mais qui ont baissé les armes à un moment. Bon, après...
Donc on attend que la police baisse les armes pour l'enjeu.
Mais c'est pas on attend, on a tous une responsabilité, on est tous l'oppresseur et l'opprimé de quelqu'un dans cette société. Il y en a qui sont plus oppressés opprimés que oppresseurs, mais on est tous l'opprimé et l'oppresseur de quelqu'un dans cette société.
Alors, Manuel.
Je rebondis sur deux choses. D'abord, la fonction de la police. Je pense qu'effectivement, alors ça, je ne suis pas historien de la police, mais il me semble que quand les premiers corps de police sont mis en place au XIXe siècle, c'est contemporain de la naissance du mouvement ouvrier. Et c'est quand même une institution qui a fondamentalement pour fonction de maintenir l'ordre social par la contrainte, par la force et par la violence quand cet ordre ne tient plus par le consentement et l'idéologie. Ça me semble assez clair. Et un autre élément que je connais mieux qui est l'exemple de ça, c'est que ça fait 40 ans qu'on vit, grosso modo, sous le néolibéralisme et que ça se manifeste par deux mouvements, un détricotage de l'État social ou de la main gauche de l'État, comme aurait dit Bourdieu, et de l'autre côté, au contraire, un renforcement de l'État sécuritaire et de la main droite de l'État. Donc je crois que fondamentalement, le rôle de la police est contradictoire avec le rôle de tout mouvement social, quel qu'il soit. Ça me semble assez clair. Après, je voudrais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est... Il y a malgré tout des gens bien dans la police et peut-être que chez eux, on peut essayer de créer une dissonance cognitive et de créer une fraternisation, une solidarité. Oui, ça s'est vu. Il y a des exemples. Il y a l'exemple de la commune de Paris. Il y a à nouveau, pendant le mouvement des droits civiques, à un moment, les policiers qui ont ordre par le shérif de lancer leurs chiens, leurs molosses sur de jeunes enfants noirs, et bien au contraire, ils vont garder les chiens avec eux parce que il y a un bug dans leur tête et donc ils s'en abstiennent. Mais aujourd'hui, en France, actuellement, est-ce que ça, c'est possible d'imaginer retourner collectivement la police ou même quelques individus parmi la police? J'en suis pas sûr parce que le problème c'est que des gens bien dans la police, il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, il y a 52% des policiers qui votent Rassemblement National alors que c'était à peine 25% il y a 15 ans. Et aujourd'hui, il y a en moyenne un mort par mois dans les quartiers populaires des grandes agglomérations françaises lors d'interventions policières. Il y a encore 20 ans, c'était un mort tous les deux mois. Donc on voit quand même que cette institution est gangrénée de plus en plus par...
Et en même temps, il y a aussi des suicides dans la police, beaucoup de suicides, de plus en plus de suicides dans la police, ce qui peut laisser penser non pas que la police que les policiers puissent la convaincre, mais ce qui peut, alors pour le coup, justifier une stratégie différente d'usure de la police, puisque...
On a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, au début du mouvement, on a vu tout un tas de Gilets jaunes aller à la rencontre des policiers sur les lignes de CRS et leur dire « mais on est avec vous, la police avec nous ».
Vous ne voulez pas qu'on regarde une image, on l'a justement. Alors, on regarde une petite séquence qui montre ce que vous êtes en train de dire.
Pourquoi j'ai des fleurs ? Parce que j'avais... J'avais pensé à mettre une fleur sur un bouclier de CRS, tout simplement, essayer de l'accrocher. Et puis j'ai été interpellé par des CRS qui en voulaient une. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de bouclier, donc pour l'instant, j'ai pas mis, mais je compte bien en mettre aujourd'hui.
Tous vos enfants, là, vos enfants, tout le monde, vont tous regretter ce que vous faites. Ils vont vous pourrir, vos propres enfants, ils vont vous pourrir. Bon, pourquoi? Parce que vous leur laissez un avenir de merde avec ce que vous faites. Vous arrêtez. Soyez avec nous un peu, les gars, là.
Dans le ton, c'est quand même moins gentil, que, c'est quand même moins bienveillant dans le ton que Extinction Rebellion. Hein. Je précise que c'était à l'acte 4 des Gilets jaunes.
Donc voilà, au début du mouvement des Gilets jaunes, les Gilets jaunes, bah, dans leur grande majorité, ils disaient « la police avec nous ». La réalité, c'est que 2 mois plus tard, après s'être mangé des bastos dans la tête et des coups de matraque et des coups de LBD, bah, en fait, ils chantaient « tout le monde déteste la police ». Et les mêmes Gilets jaunes qui voulaient mettre des fleurs sur les boucliers des policiers sont retrouvés à Beaumont-sur-Oise. Ils sont retrouvés à Beaumont-sur-Oise pour demander justice et vérité pour Adama. Et des gens disaient, mais moi, j'y croyais pas du tout que la police était comme ça. Maintenant, j'ai compris. À un moment donné, même avant-hier, la police tapait sur des pompiers. C'est le rôle de la police, de son rôle social, en fait. C'est illusoire de perdre son temps avec ça.
Il y a plein de policiers qui diraient que c'est pas leur rôle.
Mais c'est leur métier. S'ils font pas, enfin, s'ils acceptent pas, ils font pas.
De quoi de frapper sur les gens de manière complètement injuste et d'être instrumentalisé par le pouvoir.
Exactement.
Non, je crois pas que c'est pour ça que beaucoup de policiers se sont engagés dans la police. Non.
Mais de fait, c'est ce qui se passe. On a vu des policiers dire, mais on nous donne des ordres qui sont complètement débiles. On a vu cette vidéo hier de policiers qui disaient, mais on nous a donné l'ordre de vous matraquer, de vous gazer aux pompiers. Ils disaient ça. Mm-hmm. C'est leurs ordres. C'est le rôle social. De,
bah oui, mais je ne parle pas des individus, je ne sens pas les cœurs. Et qui se, enfin, je suis sûre qu'individuellement, il y en a plein qui sentent qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond du tout, quoi.
Ouais, sûrement. Mais
bon. Et vous arrivez personnellement d'avoir des échanges, des dialogues avec des policiers
Ouais.
Et ça s'est passé comment?
Il y en a qui sont complètement fermés et il y en a qui acceptent de discuter et qui sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et puis en plus de ça, nous, on parle de justice sociale aussi, hein, Extinction Rebellion, et de justice climatique. Et la justice climatique, au bout d'un moment, ça rassemble tout le monde, en fait. Les riches comme les pauvres, les policiers comme les... Enfin, je veux dire, on va tous être touchés par ça, en fait. Donc...
Et vous arrivez de convaincre un policier de ce que vous venez de dire à l'instant, là? Après la discussion, le policier vous dit ah ben oui, vous avez raison.
Je pense pas qu'on puisse convaincre une personne après une conversation. On se nourrit de plein d'échanges avec d'autres êtres humains et puis après on se fait un avis qui évolue au fil du temps.
Alors, Tabois, vous avez parlé à plusieurs reprises de convergence depuis le début de l'émission. Donc, évidemment, c'est tout ce qu'on vient de dire là pose le problème de ce qu'on appelle la convergence des luttes, c'est-à-dire de... Voilà. Alors, je ne pensais pas aborder la question à propos de ce qu'on va voir maintenant, mais l'image est tombée ce matin, c'est-à-dire quelques heures avant qu'on enregistre cette émission. C'est une image assez terrible, ça se passe à Londres, je voudrais qu'on la voie. Donc, deux militants d'Extinction Rebellion mènent une action dans une gare, ils essayent d'empêcher le départ d'un train de banlieue. Et ce qu'on va voir, c'est qu'ils se font prendre à partie par les voyageurs. Là, on voit un voyageur auquel les autres font la courte échelle pour lui permettre de monter, déloger le militant d'Extinction Rebellion qui est sur le train. Et oui, vous ne la connaissiez pas, hein, mais elle vient de tomber, elle est tombée ce matin. Bien. Vous ne l'avez pas vue non plus. Le gars se fait, on imagine, on voit pas bien, mais on imagine que le gars se fait à peu près lyncher à terre. À la suite de quoi, tout de même, il ressort, c'est lui qu'on voit là, le grand gars en costume, là, il ressort quand même indemne. Donc évidemment, c'est une image absolument, vous êtes tous en train de faire la moue, là, ce que je comprends, parce que c'est une image absolument terrifiante pour la convergence des luttes. Et y compris pour l'idéal de non-violence.
Oui, c'est juste des voyageurs, c'est ça, qui s'attaquent à deux militants qui bloquent un train.
C'est des voyageurs. Alors certains ont été interviewés par des journalistes qui étaient sur place, qui disent « moi j'ai besoin de prendre le train pour aller gagner ma vie.
Oui, »
Gagner ma
ça.
Vie de mes... Gagner ma vie...
oui, mais... C'est terrible ce niveau d'aliénation qui fait
fou,
que tu vas t'es prêt à faire ça pour aller bosser, pour te faire exploiter par ton patron.
Alors, je précise parce que ils avaient quand même eu le temps, apparemment, ces deux militants, de déployer une banderole sur le toit du train. La banderole disait « business as usual égale death », c'est-à-dire « business as usual », c'est la mort. Et une autre militante a dit avoir choisi ces trains-là, parce que c'est des trains qui mènent de l'est de Londres à la City, et que la City est le dieu de notre temps. Alors, une réaction à chaud à cette image, j'en avais jamais vu d'équivalente, c'est-à-dire de...
C'est triste. Moi, je trouve ça triste que... Bon, déjà, c'est... Du coup, moi, je suis pas partisan de la violence, en vérité, mais je trouve ça très violent comme image, des militants qui se font tirer, comme l'a dit Manuel. Manuel, il y a un niveau d'aliénation qui est ouf. En même temps, c'est des gens qui ont peut-être pas le choix. Et en même temps.
C'est ce qu'ils disent, hein.
Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est, ça reflète bien l'image de notre société, quoi. C'est, je trouve que c'est une image triste. Et en même temps, ça veut aussi peut-être dire quelque part qu'ils n'ont peut-être pas amené le message sous la bonne forme.
Alors, cette action a été désavouée par un certain nombre de responsables du mouvement Extinction Rebellion qui ont dit effectivement que ce n'était pas du tout la bonne forme et qu'il ne fallait pas faire comme ça.
De ce qu'on voit sur les images, après c'est compliqué, peut-être qu'on aura plus d'éléments de contexte au fur et à mesure de la journée, mais de ce qu'on voit sur les images, ils ne sont que deux, en tout cas ils n'ont pas l'air d'avoir, des peacekeepers comme on dit, d'autres personnes autour pour expliquer le sens de l'action aux usagers. Enfin, c'est sûr que
Alors, on voit tout de même que dans la foule sur le quai, il y a des gens qui semblent prendre leur parti à eux, donc qui sont peut-être effectivement les peacekeepers, comme vous dites. Une réflexion sur cette image ?
Non, je...
Ouais, bah je non, mais c'est, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui doit, à mon avis, poser une question à tous les militants en général et à tous les militants d'Extinction Rebellion en particulier.
Peut-être qu'on n'a pas assez expliqué le sens de notre action. Moi, quand j'ai rejoint le blocage, par exemple, du McDonald's où on s'est rencontrés, au début, ça a été assez spontané, cette action-là. Et il y a des militants qui ont bloqué. Et puis les gens voulaient rentrer dans le McDonald's et en fait les militants n'étaient pas préparés, ils n'expliquaient pas. Et moi je leur ai dit, mais attendez, si on n'explique pas le sens de notre action, on va passer pour des fachos. Il faut qu'on explique aux gens pourquoi on est en train de bloquer symboliquement.
Les fachos ne bloquent pas des McDo.
De quoi ?
Les fachos ne bloquent pas des McDo.
Des fachos écolos.
Il y en a ?
Pas Extinction Rebellion.
Voilà.
Mais oui.
Il y a une écologie d'extrême droite quand on voit la dernière campagne du FN.
Ce sera un autre sujet.
Oui, non.
D'accord. Bon, et alors du coup, non, mais pour revenir au McDo.
Non, mais il faut qu'à chaque fois qu'on fait une action, il faut qu'on communique correctement en fait avec les gens. Et c'est pour ça qu'on a des peacekeepers et des médiateurs. Pour gérer, faire descendre la tension, expliquer aux gens pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est ce que je sais plus, un de vous deux disait. Ça prouve bien l'aliénation des gens, quoi. On veut absolument aller bosser pour. Alors que la majorité des emplois dans cette société contribuent à détruire l'écosystème, qu'on est dans une société qui est de plus en plus absurde.
Après, loin de moi, je trouve ça, le truc intelligent je trouve dans cette action, c'est d'avoir bloqué cette ligne de métro qui, si je comprends bien, est l'équivalent de la ligne 1 parisienne qui amène les cadres à la Défense le matin. Mais après, je trouve ça plus intéressant de bloquer la 1 que la 13, par exemple. Ça, par exemple, je trouve ça intéressant. Et je note aussi, parce que c'est vrai que donc, je parlais d'aliénation, ça m'a surpris quand j'ai regardé un petit peu les chiffres là, sur le burn-out qui devient enfin un sujet de société. Bon, la souffrance au travail, on en parle depuis longtemps, mais il semblerait que les cadres supérieurs, effectivement, de la Défense, soient le secteur socio-professionnel dans lequel on a le plus de burn-out. Voilà, c'est pas pour les plaindre. Enfin, je veux dire, je pense que la pénibilité physique du travail est largement supérieure. Mais voilà, il y a un niveau chez eux extrêmement poussé. Enfin, c'est des gens qui...
Très bien. On a tout dit ?
Non, on n'a jamais tout dit.
On pourrait pas... On va dire qu'on a amorcé ce débat nécessaire. Il faudra peut-être continuer à mener en dépit de l'urgence, si je puis me permettre. Merci à tous les trois d'avoir participé à notre émission. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Et voilà, c'est terminé. Si vous avez regardé ou écouté cette émission sans être abonné, c'est que nos abonnés vous l'ont offerte. Sans abonnés, pas d'arrêt sur image. Alors vous aussi, abonnez-vous.